Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir, c'est ce matin que s'est ouvert le procès de la cellule de Verviers en Belgique, le procès d'une cellule djihadiste démantelée en janvier 2015 alors qu'elle préparait manifestement une attaque. Cellule dont le coordinateur n'est autre qu'Abdelhamid Abaoud, qu'on connaît aujourd'hui dans un autre dossier pour son rôle dans les attentats du 13 novembre, 6 mois plus tard. C'est bien là tout l'enjeu, petit à petit les liens se font jour au fur et à mesure des enquêtes, des noms reviennent, Abdelhamid Abaoud, mais pas seulement, les frères El Bakraoui ou encore les frère Klein dont on a beaucoup entendu parler. En jugeant Verviers, on pourrait donc en savoir beaucoup plus sur d'autres événements. Les 3 semaines d'audience devraient permettre de mieux cerner les ramifications d'un réseau complice ou à l'origine des attentats les plus meurtriers qu'ont connu la France et ensuite la Belgique. La lutte contre les réseaux terroristes progresse-t-elle pour autant? C'est le débat de ce soir sur RFI. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 2 invités. David Thompson, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à RFI, spécialiste des questions liées au djihad et puis auteur du livre « Les Français djihadistes » aux éditions Les Arènes. Jean-Charles Brizard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président du CAT, le Centre d'analyse du terrorisme. Vous enseignez également à l'Institut des études politiques de Strasbourg. Jean-Claude Brizard, le procès qui s'est ouvert ce matin à Verviers, est-ce que c'est un procès qui est important ?
Oui, c'est important parce que Verviers, c'est en quelque sorte, comme on l'appelle régulièrement, la cellule souche des attentats de Paris et de Bruxelles. C'est une cellule qui était liée elle-même au réseau, à la filière de recrutement et d'acheminement dite Zerkani, du nom de son animateur, d'où proviennent à peu près 5 ou 6 individus qui ont participé directement aux attentats à la fois de Paris et de Bruxelles, à commencer bien sûr par Abdelhamid Abaoud, dont vous rappeliez le rôle. Donc c'est un procès très important. Verviers, c'est quoi ? C'est le premier projet d'attentat planifié, conçu par celui qui va devenir le coordinateur opérationnel des attentats de Paris et vraisemblablement aussi de ceux de Bruxelles, Abdelhamid Abaoud. Donc c'est important pour comprendre d'abord l'étendue de ce réseau. Je rappelle que les enquêtes progressent sur les attentats à la fois de Paris et de Bruxelles, mais il y a encore de nombreux individus recherchés en Europe.
On a identifié à peu près 100 de personnes, sans savoir forcément où elles sont, mais il y a en gros 100 personnes de cette cellule qui ont été identifiées.
Tout à fait. Par ailleurs, on ne connaît pas encore les commanditaires de ces attentats, c'est-à-dire la chaîne de commandement qui a permis à ces attentats d'être préparés et surtout perpétrés. Donc il y a encore de nombreuses questions auxquelles pourront répondre d'ailleurs ou pas un certain nombre d'individus qui ont été appréhendés, à commencer par Salah Abdeslam.
Ouais, on va y venir.
Mais il y a encore beaucoup de questions. Et surtout, ce qu'on veut comprendre, c'est... alors, on connaît bien sûr la volonté de l'État islamique de frapper ici en Europe, démontrée par ces attentats, démontrée également par les nombreuses tentatives déjouées avant et depuis lors. Maintenant, ce qu'on connaît moins, c'est effectivement l'articulation entre ces individus avec l'État islamique. Comment est organisé en interne l'État islamique pour commettre ces attentats, par quelle filière passe-t-il? On a parlé des migrants, il y en a d'autres, bien sûr, qui sont utilisés. Donc voilà, autant de questions qui restent aujourd'hui et auxquelles il faudra surtout répondre.
Et qui font de ce procès un procès important. David Thompson, est-ce que vous êtes d'accord? Procès important, est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'on touche du doigt le centre névralgique de la nébuleuse terroriste en Europe aujourd'hui?
Absolument. Verviers, lorsque les forces de sécurité donnent l'assaut contre cette maison dans cette ville industrielle de l'Est de la Belgique, on est 10 mois avant les attentats de Paris et on a à la manœuvre déjà Abdelhamid Abaoud qui deviendra plus tard le coordinateur des attentats du 13 novembre. Il faut imaginer que cette attaque, elle est passée assez inaperçue, cette attaque déjouée à l'époque. On est une semaine après les attentats de Charlie Hebdo en France. La France est encore sous le choc de cette attaque. Et là, il y a une revendication de cette attaque déjouée de Verviers qui est diffusée quelques semaines ou mois de mémoire dans le magazine de l'État islamique d'Abik. Et là, on a déjà Abdelhamid Abaoud qui, dans ce magazine, nargue les autorités européennes, en particulier belges, mais aussi françaises, en expliquant que, en confirmant qu'il était bien le chef de cette attaque déjouée, qu'il était déjà revenu en Europe sans que les autorités ne s'en rendent compte, et qu'il était ensuite revenu en Syrie et pour y donner une interview dans le magazine de l'État islamique et narguer, humilier les autorités. Déjà un an quasiment avant les attaques de Paris. Et là, le projet, il était très clair. Il s'agissait de frapper, de quelle manière, c'est-à-dire ils avaient pour projet, hein, et là aussi il a confirmé tout cela à Baoud dans ce magazine de l'État islamique d'Abik, pour projet de kidnapper des policiers, de les décapiter sur le sol européen et d'en faire ensuite une, d'en diffuser la vidéo. Et puis on sait maintenant, selon avec les enquêtes, que des explosifs étaient également en cours de constitution, des kalachnikovs, donc une répétition des attentats de Paris 10 mois avant.
Alors, Jean-Charles Brizard, ce que nous dit David Thompson, c'est donc qu'on est effectivement en train de toucher le centre névralgique d'une certaine nébuleuse. Est-ce que, comme l'a dit François Hollande, c'est lui qui a utilisé le mot, est-ce qu'on est en passe d'anéantir ce réseau ?
Moi, je ne serais pas aussi catégorique, si vous voulez, parce qu'encore une fois, je l'ai dit, il y a de nombreux individus qui sont encore recherchés en Europe, en lien direct ou indirect avec les attentats de Paris et de Bruxelles, en lien également avec ce fameux réseau Zerkani. Certains d'entre eux, on en a la preuve aujourd'hui, sont revenus sur le territoire européen, donc ils sont recherchés, bien évidemment, parce qu'ils sont susceptibles de passer à l'action. Ce qui est certain, c'est qu'on a vu, encore une fois, comme l'a dit très bien David Thompson, on a vu progressivement, si vous voulez, un certain nombre de projets terroristes, depuis Verviers surtout, hein, à la manœuvre était bien sûr Abdelhamid Abaoud, un certain nombre de projets qui ont échoué. Et qui ont conduit d'ailleurs à Baoud, on le sait, à venir lui-même préparer, coordonner les attentats à Paris. Il coordonnait le soir même des attentats à Paris, hein, les commandos, les kamikazes au Bataclan, par exemple, parce qu'il voulait vraiment éviter à tout prix un nouvel échec comme celui de Verviers.
Vous êtes d'accord, David Thompson ?
C'est effectivement lui-même qui l'avait semble-t-il annoncé à quelques personnes au moment de son retour. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que Abdelhamid Abaoud, qui était certes le coordinateur de ces attaques, était lui-même exécutant de ces attaques. Donc la personne ou les personnes qui les ont directement commanditées, qui étaient les personnes décisionnaires et qui donnaient les ordres de Syrie, pour l'instant... Elles n'ont pas été identifiées. Alors, il y a ce fameux Abou Ahmed qui apparaît maintenant dans les enquêtes, mais
un nom seulement, pas une identité,
en fait. Un surnom, et l'individu n'est, semble-t-il, pas encore identifié. Il y a plusieurs suspects français qui sont actuellement en Syrie, qui sont susceptibles d'avoir été, là, pour le coup, les cerveaux de ces attaques, et qui seront sans doute les cerveaux des prochaines attaques, qui sont sans doute à prévoir. Mais pour l'instant, ces gens-là n'ont pas été identifiés. Et en Syrie, en Irak, les derniers chiffres concernant les ressortissants français ont été donnés aujourd'hui par le Premier ministre, hein, 634 Français sur place encore. Donc c'est des gens qui sont certes pas tous en capacité et en intention de mener des attaques sur le sol français, mais pour beaucoup d'entre eux, c'est quelque chose qu'ils ont pour projet de faire. Oui.
Alors la grande question, c'est aussi, une fois qu'on arrête quelques-uns de ces membres de cette cellule, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui vont émerger ? Certains utilisent une expression « l'hydre de l'herne djihadiste ». Jean-Charles Brizard, est-ce que c'est effectivement une inquiétude que vous avez ?
Bien sûr, David Thompson le rappelait, il y a encore beaucoup de Français présents et qui se rendent sur le théâtre d'opération. C'est vrai que depuis au moins la fin de l'année dernière, on a vu que ces départs ont été freinés. En tout cas, on sent bien que certaines mesures prises par les pouvoirs publics fonctionnent, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à dissuader les individus de partir, ou à tout simplement leur interdire de partir. Hein, c'est le cas de l'interdiction de sortie du territoire. Donc il y a des mécanismes qui marchent. Certains, bien sûr, passent toujours au travers des mailles du filet. Ça s'est toujours vu. Il y a toujours donc cette force d'attraction de l'État islamique, nonobstant les frappes, nonobstant progressivement l'affaiblissement de ce groupe terroriste sur le plan financier ou sur le plan territorial. Donc ça existe toujours. Ce qui était sous-jacent aux attentats existe encore toujours, et la capacité, elle est réelle, elle est manifeste. On l'a vu, encore une fois, ces derniers mois, à l'occasion de ces attentats, mais pas seulement, à l'occasion des attentats qui sont déjoués très régulièrement. On voit qu'il y a cette capacité, cette volonté toujours intacte de la part de l'État islamique de nous frapper.
Et est-ce qu'on peut voir dans le changement de fonction de certains des individus, je pense par exemple aux frères El Bakraoui, qui sont passés de loueurs de voitures à kamikazes pour certains dans les attentats de Belgique, ensuite une sorte d'affaiblissement du réseau, et donc ils ont changé de rôle. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ?
Non, je ne pense pas. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que là, effectivement, sur les derniers attentats 13 novembre et ensuite 22 mars en Belgique, on retrouve plusieurs dizaines d'exécutants. Et si on compte les soutiens logistiques, vous l'avez dit, on arrive à quasiment entre 50 et 100 personnes, ce qui est énorme. Mais finalement, quand on regarde tous les attentats qui ont ces deux dernières années, qui ont frappé à la fois en France, en Belgique et en Tunisie, on a affaire, en général, bien souvent, à des personnes qui non seulement sont connues, mais qui font toujours partie du même noyau dur de relations et d'individus qui évoluent dans l'univers djihadiste francophone depuis longtemps et qui sont parfaitement identifiés. Donc à la fois, on a ce sentiment vraiment d'une sorte de nébuleuse qui est capable de frapper partout, à tout moment. Et ça, c'est ce que cherche c'est l'impression que cherche à donner l'État islamique, ce qui est faux. Et ça, il faut également le relativiser, là encore, parce que voilà, on a souvent affaire à ce même noyau dur d'individus de quelques dizaines, voire quelques centaines de personnes.
Alors, le fait d'avoir arrêté vivant Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, ça peut donner des indications importantes aux enquêteurs, notamment par exemple sur les manières dont ils sont arrivés sur le territoire européen, comme disait Jean-Charles Brizard.
Je crois que déjà des indications ont été données. Sur la question de Salah Abdeslam, la difficulté, ça va être de savoir si ce qu'il dit est crédible ou non. Je crois qu'il y a eu plusieurs versions de données. Il y a eu donc
le silence aussi.
Le silence, qui est en général une recommandation. Il y a des guides qui sont des guides de manuels de survie en garde à vue qui s'échangent depuis des années sur les forums djihadistes. La première des règles, c'est d'observer un mutisme total. Là, c'est pas le cas, mais bon, voilà, ça va être Salah Abdeslam. La question, ça va être de savoir quel crédit accorder à ces déclarations.
Nous savons qu'il y a d'autres réseaux, même si celui qui a commis les attentats de Paris et de Bruxelles est en voie d'être anéanti et avec un certain nombre de ses membres arrêtés, il y a toujours une menace qui pèse.
Voilà, François Hollande, dans la foulée de l'arrestation de Salah Abdeslam, Jean-Charles Brizard, nous savons qu'il y a d'autres réseaux. C'est une analyse que vous partagez, des informations que vous partagez.
Oui, évidemment. Ce qui est intéressant, vous le rappeliez en partie, c'est le fait que pour ces attentats, ils se sont appuyés principalement sur des individus demeurés ici en Europe, qui ont constitué le soutien logistique de ces attentats, des individus qui avaient déjà un passé dans la grande criminalité. Pourquoi ils ont choisi ces personnes? C'est très important. Ils étaient, pour certains d'entre eux, djihadistes aussi, c'est-à-dire qu'ils avaient fait le voyage en Syrie, mais ils se sont appuyés sur ces individus parce que c'était les mieux à même de passer inaperçus, d'avoir accès à des armes, par exemple, à des moyens logistiques, à des moyens financiers, etc., et de passer sous les radars. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Après, il y a la dynamique propre des attentats, c'est-à-dire qu'on voit bien, et c'était votre question, que l'artificier des attentats de Paris est devenu kamikaze de ceux de Bruxelles. De la même manière, des soutiens logistiques de Paris sont devenus kamikazes à Bruxelles. Ça veut dire que c'était une mission, bien sûr, suicide, mais ça veut dire que tous les acteurs ont été choisis pour une mission bien particulière et au final, réaliser finalement ce double attentat, puisqu'en réalité, on sait aujourd'hui que, de manière certaine, que c'est le même réseau qui a commis ces attentats.
David Thompson, sur ces autres réseaux, il y a aussi eu Reda Kriket, dont on sait qu'il a été arrêté donc à la fin du mois de mars en région parisienne, dont on sait qu'il est lié à Abdelhamid Abaoud. Est-ce qu'on peut imaginer que ça, ce serait un autre réseau qui a pu exister en France?
En tout cas, la question est posée, puisque l'arsenal qui a été découvert dans cet appartement d'Argenteuil qui était loué par Reda Kriket laisse évidemment imaginer d'autres acteurs, que ce soit à la fois pour rassembler cet arsenal, à la fois les plusieurs kilos d'explosifs, plusieurs kalachnikovs, des armes de poing, donc pour rassembler cet arsenal, mais aussi pour l'utiliser, puisque on peut imaginer du coup que ces armes devaient servir à plusieurs personnes. Donc on n'est pas en mesure de dire aujourd'hui que toutes ces filières ont été éradiquées et qu'il n'y a pas en ce moment des commandos qui sont en train de préparer des actions sur le sol français.
Alors je voudrais qu'on en vienne, messieurs, à ce qu'a annoncé ce matin Manuel Valls, qui a donc annoncé tout un plan avec des mesures pour lutter, pour faire de la déradicalisation. Il a rappelé le Premier ministre qu'il y avait eu 15 projets d'attentats déjoués depuis 2013, 6 qui ont été portés par des individus de retour de la zone syro-irakienne. Jean-Charles Brizard, est-ce qu'on a les moyens de suivre les Français ou les Belges qui rentrent de Syrie aujourd'hui?
C'est très compliqué. On n'est pas dans un domaine qui est scientifique, si vous voulez. On est dans le domaine du renseignement. Humain, électronique aussi parfois, mais essentiellement humain. On agit à travers des sources, qu'on a des indications sur des individus. On comptabilise ces individus, on se trompe bien souvent. Il y a une marge d'erreur qui existe, qui est de 20 à 30% sur à la fois le nombre de retours, le nombre de départs, etc. Donc on n'est pas devant une science exacte. Ce qui est certain, c'est qu'on voit bien à travers ces mesures, le gouvernement entend amplifier d'abord des mesures existantes ou des mesures existantes. Il entend également renforcer la formation, renforcer l'éducation, renforcer surtout la connaissance de ces réseaux. Hein,
avec un conseil scientifique permanent qui serait créé.
Oui, c'est très important, hein, puisque là, on a entendu pendant plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, un certain discours qui, grosso modo, consistait à dire « moins on en sait sur ces réseaux, mieux c'est, on n'a pas besoin de connaître le fondement et surtout les ressorts. »
Car expliquer, c'est connaître, c'est excuser, un début d'explication, avait dit le Premier ministre.
Ce qui est évidemment une erreur non seulement scientifique, mais en l'occurrence, s'agissant de ce phénomène particulier, il est fondamental de comprendre tous les ressorts qui animent un individu et qui le conduisent à quitter le territoire national pour aller combattre à l'étranger et éventuellement en ayant l'intention de revenir sur son propre territoire pour y commettre des attentats.
David Thompson, vous travaillez sur ce phénomène du retour, vous avez travaillé, continuez de travailler sur le départ, mais le retour, c'est Français, c'est Belges aussi qui rentrent. Est-ce qu'on a une manière de savoir quelles sont leurs intentions ?
C'est toute la question pour les autorités, aujourd'hui en particulier les autorités françaises. Que faire de ces retours ? Comment déterminer le degré de radicalité des gens qui rentrent et leurs intentions ? La plupart aujourd'hui des Français qui quittent la Syrie, l'Irak après une période au sein de l'État islamique ou d'autres groupes djihadistes contactent eux-mêmes les autorités pour annoncer leur retour et pour essayer d'enregistrer, si j'ose dire, leur retour auprès des autorités françaises pour montrer qu'ils ne rentrent pas dans la clandestinité, pour montrer qu'ils ne rentrent pas avec des intentions terroristes. Même pour ces gens-là, il est difficile de s'assurer, du point de vue des autorités françaises, que cette personne n'aura pas, au moment de son retour, des intentions terroristes ou un jour ou l'autre. C'est quasiment impossible de le savoir. Donc aujourd'hui, ça c'est la première difficulté. Ensuite, c'est que faire de ces gens-là ? Puisque la question de la détention, pour le moment, elle est privilégiée faute de mieux. Mais je pense que les autorités, que ce soit les autorités pénitentiaires ou les autorités gouvernementales, savent que pour beaucoup d'individus, la prison n'est pas du tout la meilleure solution. Donc des alternatives sont en train...
Les fameux centres de réinsertion qui ont été annoncés, donc objectif 13 fin 2017,
exactement.
Ça vous paraît être une bonne idée, on en sait peu
encore. En tout cas, c'est une tentative, c'est une alternative à la prison. Pour des gens, sans doute, donc ce sera sur décision de l'autorité judiciaire, mais c'est des gens pour qui il y a des questions qui se posent, mais dont la place n'est pas forcément en prison, puisque aujourd'hui, il y a ces unités dédiées, les détenus djihadistes sont regroupés. C'est la solution qui est privilégiée pour le moment, mais c'est vrai que ça ne convient pas forcément pour certains profils, notamment ceux qui sont peut-être moins idéologisés que d'autres.
Puis le gros problème, Jean-Charles Brizard, c'est ceux qui ne se sont pas manifestés aux autorités, dont on n'a aucune trace.
Bien sûr, bien sûr. Non, mais encore une fois, c'est toujours possible, même si aujourd'hui, dans le contexte particulier de l'après-attentat, on a renforcé les contrôles aux frontières, etc., et les services surtout sont mobilisés sur cette question. Mais c'est vrai que l'essentiel de ceux qui vont rentrer ne sont pas nécessairement des individus qui passeront à l'acte. On le sait déjà. Ce sont des individus, d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui encore, ce sont des individus qui sont pour la plupart désillusionnés, traumatisés, parce qu'ils ont vécu sur place, et il faut effectivement les réinsérer d'une manière ou d'une autre, au terme d'un processus qui va être compliqué à gérer. D'abord, il va falloir former des personnels en ce sens, et pour l'instant, on en sait très peu sur la formation de ces personnels qu'il va falloir recruter.
Alors qu'on dit une trentaine de personnes pour chaque structure,
voilà,
ce qui est quand même
sachant
énorme.
Sachant qu'il y a une structure par région, donc ça va être très compliqué. L'évaluation va être cruciale de ces individus pour effectivement ne pas manquer un seul d'entre eux qui éventuellement aura l'intention de déguiser, de masquer ses intentions pour frapper ici en France. Donc ça va être extrêmement compliqué et pour l'instant, on a très peu de réponses sur ce plan-là.
Merci beaucoup messieurs, c'est déjà la fin de cette émission. Merci donc à Jean-Charles Brizard, président du CAT, Centre d'analyse du terrorisme, enseignant à l'Institut des études politiques de Strasbourg, David Thompson, journaliste à RFI, que vous entendez régulièrement, spécialiste des questions liées au djihad, auteur du livre Les Français djihadistes aux éditions Les Arènes. Merci également à Florence Ponce, à Valentin Vaner. Dans un instant, c'est un nouveau journal sur RFI.